calme, pourquoi le, ne pas le laisser ici?
Oh, ben, il sera mieux là-bas. Là, il commençait à vouloir bouger.
Ouais. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te louer pour ce que tu es et que qui dépasse largement notre imagination. Seigneur, nous te demandons de venir parmi nous ce matin. Sois avec nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous demandons, Seigneur, que tu travailles dans nos cœurs pour nous faire avancer encore un peu aujourd'hui dans la sainteté et dans l'application de ta parole. Aide-nous à la comprendre, à mieux l'approfondir, à mieux la mettre en pratique jour après jour. Et pour ça, sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Aide-nous ce matin, Seigneur. Amen. Amen. Je vais d'abord lire, nous allons lire le texte de la prédication. C'est donc, le thème, c'est la passion, une série sur la passion de notre Sauveur Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu. Donc nous sommes arrivés au moment où Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémané, c'est-à-dire nous sommes au chapitre 26 de Matthieu. Des versets, donc, à partir du verset 47 jusqu'au verset 56. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. » J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Il est tout à fait nécessaire pour nous, chrétiens, je crois, de méditer sur les souffrances donc de notre Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que quand nous le faisons, nous avançons plus loin dans la connaissance de son amour pour nous. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour avancer avec lui, que nous sachions qu'il nous a aimés au point de se donner pour nous. Et donc, en méditant ce texte, c'est ce que nous allons essayer de faire, mieux saisir l'amour de Christ pour nous. Donc il y a quelque temps, on avait commencé à parler de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané, et nous avions vu l'importance du combat de la prière pour être spirituellement victorieux. Et donc, il y a aussi l'inverse. On avait vu avec les disciples que l'absence de prière, au contraire, conduit à une vie de défaite sur le plan spirituel. Alors, on avait vu dans le jardin de Gethsémané que d'un côté, Jésus a lutté et remporté la victoire de la croix, si on peut dire, sa victoire dans la prière dans le jardin de Gethsémané, il avait pris la résolution de boire la coupe que lui présentait le Père pour notre salut. Et les disciples, eux, ont fait l'inverse. Ils ont fui le combat de la prière, ils ont dormi, et malgré l'exhortation de Jésus qui leur a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Et c'est pourquoi les disciples, après, on les voit qui vont d'échec en échec, notamment comme on va le voir l'apôtre Pierre, et les disciples qui, le texte le dit, prennent la fuite. Nous allons ce matin donc parler de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané et nous aurons 4 points. Premier point, la foule et sa folie. Judas, deuxième point, c'est Judas, malgré sa connaissance de Jésus, n'a pas trouvé le salut. Troisième point, le zèle charnel de Pierre, conséquence de son manque de prière. Quatrième point, Jésus contrôle pleinement tous les détails de son arrestation. Premier point, la foule suit sa folie. C'est un vers de Victor Hugo qui dit « La foule des vivants rit et suit sa folie », ce qui décrit très bien la condition humaine déchue. Verset 47. « Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui, une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. » Ce que nous ressentons en lisant ce verset, c'est de l'indignation et un sentiment d'injustice. Pourquoi ? Parce que tout ce déploiement armé est complètement décalé par rapport à la réalité de la situation. Et la foule se comporte un peu comme si Jésus était l'ennemi public numéro un. Alors qu'en réalité, il n'a jamais existé sur la terre aucun être aussi honnête, aussi généreux et aussi bon et aussi bienveillant que Jésus. L'Écriture nous le dit dans le livre des Actes, que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Comment donc expliquer l'hostilité de cette foule vis-à-vis de Jésus? La réponse, c'est que la majorité des gens qui constituaient cette foule ne connaissaient pas Jésus et ne savaient pas qui il était vraiment. Et en fait, ils ne connaissaient probablement que ce qu'ils avaient entendu dire de Jésus. Par le contexte, en fait, nous savons que la foule a été, en quelque sorte, trompée par une manipulation de l'information. Parce que qu'est-ce qui se disait de Jésus dans les milieux qui étaient hostiles à Jésus, les milieux religieux, il se disait que Jésus était quelqu'un qui menaçait la paix civile et disons que c'était un agitateur politique en quelque sorte. On en a la preuve dans Luc 23, 14 où Pilate le dit lui-même aux Juifs, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. » Mais dans cette foule hostile, qui est-ce qui a pris la peine d'aller vérifier ces informations? Personne, certainement. Personne n'a cherché à savoir si ces rumeurs étaient vraies et fondées. Et en fait, aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, si vous regardez autour de vous, l'attitude des gens n'a pas changé. Et les gens ont entendu parler de Jésus-Christ. Et ils n'ont jamais pris la peine de vérifier si ce qu'ils ont entendu dire de lui est vrai ou faux. Et c'est pourquoi vous entendrez les gens en général affirmer les choses les plus bizarres sur Jésus-Christ. Et si vous leur dites, est-ce que vous avez lu les évangiles? Souvent, ils vous disent non. Mais ils croient les connaître. Souvent, ils croient connaître l'évangile. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, les gens rejettent Christ parce qu'ils font comme cette foule de Gethsémané. Ils jugent Christ sans s'être informés et sans savoir ce qu'il a fait ou qui il est vraiment. Alors pourquoi est-ce que cette attitude est grave? Parce qu'il s'agit en fait d'une ignorance délibérée, voulue. Et une ignorance délibérée, dans ce cas-là, peut nous priver du salut. Si quelqu'un ne connaît que peu de choses sur Jésus-Christ, sa sagesse sera plutôt de chercher à mieux le connaître avant de prendre une décision pour ou contre. La Bible considère l'ignorance délibérée comme un péché. Quand vous lisez le psaume 36, non pas dans sa traduction habituelle, mais littéralement, il est dit au verset 3, « Il refuse de comprendre afin de bien agir. » Et rien n'est plus dangereux que de refuser de chercher à comprendre, de refuser de comprendre que nous sommes des pécheurs et que des pécheurs qui avons besoin d'un sauveur. Alors nous allons maintenant voir une autre attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de Jésus-Christ. Il s'agit de l'attitude de Judas. Ce sera donc le second point. Judas, malgré sa connaissance de Jésus, n'a pas trouvé le salut. Une chose est certaine, c'est que lui n'a pas été comme la foule victime d'une manipulation de l'information. Il connaissait très bien Jésus et pendant 3 années, donc, il a été témoin de sa vie, de son ministère puissant. Il a vu ses miracles, il a entendu son enseignement. On peut donc dire, sans se tromper, qu'il a reçu une certaine lumière sur la véritable nature du Sauveur et sur son œuvre de salut. Il a été exposé à la lumière de Christ, mais, comme il est dit dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, comme la plupart des hommes, il n'a pas reçu cette lumière. Au contraire, la connaissance de la vérité qu'il a reçue, qu'il recevait jour après jour de Jésus, l'a endurci dans son propre péché. C'est une réalité spirituelle dont la Bible parle. Il existe un double effet de la parole de Dieu sur les hommes. Elle est pour les uns odeur de vie et pour les autres odeur de mort. Et Judas, qui a été jour après jour, pendant 3 ans, exposé à l'enseignement de Jésus, a continué à préférer vivre dans son péché, plutôt que de vraiment croire en Jésus. Et 3 ans après avoir été exposé aux vérités exposées par Christ, il s'est retrouvé encore plus endurci. C'est un avertissement pour nous, lorsque le péché n'est pas l'effet d'une simple chute due à notre nature déchue, il aboutit en général à une forme ou à une autre d'obstination qui peut conduire non pas à la perte du salut, mais passer carrément à côté du salut. C'est ce qui a été le cas pour Judas. On peut dire que Judas s'est obstiné à préférer son péché plutôt que Christ. Et il a fini par trahir Jésus pour la misérable somme de 30 pièces d'argent, c'est-à-dire à l'époque, c'était le prix d'un esclave, c'est à peu près l'équivalent d'une centaine d'euros aujourd'hui. Quelle misère! Le péché nous emmène vraiment à la misère la plus sordide, un peu comme dans le fils prodigue, que les pourceaux sont même mieux nourris que lui. Alors, on peut penser que Judas faisait partie de ceux dont il est parlé dans l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 6, les versets 4 au verset 6, qui dit « Car il est possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Dans ce verset, il n'est pas question de la perte du salut. Ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui placent leur foi en Jésus-Christ et se repentent de leurs péchés ne perdront jamais leur salut. Il est question ici de ceux qui rejettent Christ en toute connaissance de cause. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de ceux qui, ayant connu Christ, préfèrent rester et s'obstiner dans leur péché plutôt que de venir à Christ dans la repentance pour le salut. Et les gens qui suivent cette voie, comme Judas, finissent par s'endurcir avec le temps jusqu'à, en quelque sorte, atteindre un point de non-retour où on ne peut plus se repentir. C'est ce que semble nous dire l'Épître aux Hébreux dans ce passage. Tous ceux qui sont exposés à la lumière de l'Évangile, donc, doivent être avertis de ce danger extrême. Et le mieux là-dessus, c'est de suivre le conseil que nous donne la parole de Dieu qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Troisième point, le zèle charnel de Pierre, conséquence de son manque de prière. Le texte, verset 51, dit tout simplement « Un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. » L'évangile de Jean nous dit qu'il s'agit de Pierre et que celui à qui l'oreille a été coupée, c'était Malchus, le serviteur d'un souverain sacrificateur, je crois. Donc Pierre n'a pas eu la bonne réaction dans ce cas-là. Sa réaction, on peut dire qu'elle était complètement décalée par rapport à la situation, pour trois raisons. D'abord, premièrement, qu'aurait pu faire une douzaine d'hommes contre plus d'une centaine d'individus armés? Deuxièmement, Jésus avait tout expliqué à Pierre juste avant. Il fallait qu'il donne sa vie, qu'il verse son sang pour le pardon des péchés. Il leur a aussi clairement expliqué au verset 31 qu'il allait ressusciter. Puisqu'il dit « Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Mais Pierre, apparemment, a complètement zappé ces choses. Il n'a pas compris non plus que dans le royaume de Christ, les combats sont spirituels et que ce n'est pas avec des épées qu'on remporte la victoire, mais avec les armes de Dieu qui nous a données et qui nous sont donnés dans le chapitre 6 des Éphésiens. Troisièmement, Pierre avait, c'est connu, trop confiance en lui-même. On se souvient qu'il avait dit à Jésus, même si tu étais pour moi une occasion de chute, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Saint Augustin disait que c'est parce que Pierre avait trop confiance en lui, un, qu'il s'est vanté si fort, deux, qu'il a prié si peu, trois, qu'il a dormi autant, quatre, qu'il a tiré son épée si vite. Cependant, il faut remarquer une chose, c'est que Pierre a bronché, mais qu'il n'est pas tombé. C'est une nuance faite dans l'épître de Jacques, je crois. C'est-à-dire que Pierre a renié le Christ trois fois, c'est vrai, mais pas de manière définitive. Pierre n'a jamais apostasié comme Judas. Pierre n'est pas resté sur son reniement. Au contraire, ensuite, il a progressé, on le voit au cours du livre des Actes et dans ses épîtres, il a progressé d'une manière incroyable sur le plan spirituel et aussi sur le plan du caractère. Et ça, c'est un encouragement pour nous de savoir que Dieu peut changer notre vie quand on se convertit, mais aussi même notre caractère. Et on le constate qu'après la Pentecôte, l'énorme différence qu'il y a entre Gethsémané et la Pentecôte, c'est que Pierre, après, ne pense plus comme avant, il ne parle plus comme avant et il n'agit plus comme avant. Et un exemple vraiment extraordinaire, c'est la prédication qu'il a dans Acte 2, où 3000 personnes se convertissent. C'est incroyable. On ne l'aurait jamais cru en le voyant, en voyant son comportement avant ça. Voilà, c'est la puissance de l'Évangile pour changer la vie, la vôtre et la mienne. Paul dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le quatrième point, et dernier point maintenant, Jésus contrôle pleinement tous les détails de son arrestation. Au verset 46, Jésus dit « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Donc ce n'est pas pour aller se cacher qu'il dit ça, mais pour aller volontairement se livrer à ceux qui viennent l'arrêter. Il se dirige volontairement de son plein gré vers la croix. Alors comment est-ce que Jésus manifeste sa maîtrise de la situation? D'abord, il garde son calme alors que cette situation est, à vue humaine, catastrophique, humainement parlant. Donc premièrement, il garde son calme avec Judas. Il lui parle de manière pacifique et il lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Il n'y a pas la moindre trace d'aigreur, de colère ou de ressentiment vis-à-vis de Judas. Alors que Judas était en train de commettre une abomination, puisqu'il était en train de livrer le Christ à la mort par un baiser qui est le symbole de l'amour. Deuxièmement, Jésus garde son calme aussi avec Pierre. Il le reprend avec paisiblement, presque pédagogiquement, après lui avoir demandé de ranger son épée. Et il lui dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer, il le dit presque sur un ton pédagogique, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Et pourtant, Jésus aurait eu de quoi se mettre en colère contre Pierre. Pourquoi ? Parce que son intervention aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il a tenté de commettre un homicide, et heureusement, grâce à sa maladresse, ça n'a pas été le cas. Il visait certainement le crâne, mais il n'a eu que l'oreille. de Malchus. Deuxièmement, si Pierre avait réussi à le tuer, cela aurait accrédité l'accusation contre Jésus de sédition et d'agitateur social, agitateur politique. Or, si Christ avait été condamné pour un motif politique ou un motif criminel, sa crucifixion aurait perdu toute valeur rédemptrice pour nous. Troisièmement, Jésus garde son calme aussi avec la foule armée. Il donne même l'impression que c'est un peu lui qui dirige, et même beaucoup qui dirige les opérations. Regardez comment il s'adresse à cette foule vraiment enragée. Il se permet avec calme de les reprendre, de la reprendre. Il dit au verset 55, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Vous remarquerez comment il souligne le côté disproportionné et absurde de l'intervention de cette foule. Si on en croit l'évangile de Jean qui parle d'une cohorte, c'était au minimum 300 hommes, au minimum. Donc c'est plusieurs centaines d'hommes. Cet aspect disproportionné, donc Jésus le souligne ici. Donc Jésus a une maîtrise parfaite des événements. Et quand on lit le texte, on a l'impression que c'est lui qui a dirigé toutes les opérations de son arrestation. On a même l'impression qu'en plus de ça, il a activement veillé à l'accomplissement des prophéties. Au verset 56, il dit « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Un autre exemple, il dit à la troupe armée, « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Ceci nous amène à la conclusion. Si vous observez bien l'ensemble des événements qui ont conduit à l'arrestation de Jésus, il y a quelque chose d'assez frappant dans ces événements. Ils ont tous une particularité. Je ne sais pas si vous voyez laquelle. Tous ces événements sont basés sur des péchés des hommes. Des péchés graves. L'iniquité des chefs religieux juifs, l'hostilité injuste de la foule armée, la cupidité de Judas, etc. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner par cela ? Elle nous enseigne que notre Dieu Tout-Puissant, sans commettre lui-même un seul acte critiquable, a repris tous ses péchés sous son contrôle pour les faire concourir à la réalisation de son plan de salut pour nous. Il a même utilisé Satan, nous dit l'évangile de Jean, pas dans ces termes, l'évangile de Jean dit « Satan entra dans Judas ». Il a même utilisé ça, Dieu, pour le faire concourir à notre salut. Donc c'est un peu comme en judo où on se sert de la force de l'adversaire pour le clouer au tapis et le vaincre. Dieu a fait un peu la même chose avec les méchants et avec le diable. Et ceci est dit très clairement dans le livre des Actes, au chapitre 4, versets 27 et 28. « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Est-ce que cela veut dire, on arrive à la conclusion, que nous pouvons pécher en nous disant que Dieu en tirera du bien, ce serait manifester qu'on a le cœur bien tortueux si on faisait comme ça. La parole de Dieu nous empêche d'avoir ce genre de pensée de toute manière, parce que quand on y réfléchit, on voit que Judas, même si Dieu s'est servi de son péché pour sauver le genre humain, Judas a été puni de sa traîtrise, même si sa traîtrise a accompli le plan de salut de Dieu. Dans l'Ancien Testament aussi, on voit souvent que Dieu se sert, par exemple, des Assyriens ou des Babyloniens pour châtier le peuple d'Israël de son péché, mais il punit toujours ces peuples qui ont fait du mal à son peuple. Donc notre sagesse, ce sera donc non pas de nous livrer au péché en nous donnant de mauvaises raisons, mais plutôt de venir chercher en Jésus le pardon de nos péchés dans un esprit de repentance, parce que Christ a réglé une fois pour toutes le problème de notre péché, et il a bu, nous dit le texte, à notre place la coupe amère de la colère et du jugement. Christ a subi une arrestation injuste, il a subi, comme on le verra dimanche prochain, un jugement injuste, et après, il a subi une condamnation injuste, il a subi un châtiment injuste, et c'est pour réparer quoi ? Notre injustice à nous qu'il l'a fait. On peut lire, ce sera la conclusion, dans 1 Pierre 3,18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Prions.